journal, Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La question de l'immigration au cœur d'un bras de fer entre la France et plusieurs pays du Maghreb. C'est une information exclusive d'Europe 1. La France a réduit drastiquement le nombre de visas qu'elle accorde à l'Algérie, au Maroc et à la Tunisie. Mesure de rétorsion face à trois pays qui refusent de reprendre leurs ressortissants en situation irrégulière. Bonjour Louis de Ragnel.
Bonjour Fanny, bonjour à tous.
Chef du service politique d'Europe 1 en direct avec nous ce matin. Vous avez eu accès à un document important, le tableau de bord interne de l'exécutif sur les expulsions et la délivrance de visas. Que révèle-t-il exactement ?
Eh bien, tout d'abord, il révèle le refus de la part de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie de reconnaître les ressortissants que la France veut expulser. Ces chiffres, regardez-les. Prenons le cas de l'Algérie. Entre janvier et juillet 2021, la justice française a ordonné 7731 obligations de quitter le territoire français, c'est-à-dire des expulsions. Et vous savez combien d'Algériens sont vraiment repartis chez eux ? Seulement 22. 22 sur 7731, ça veut dire à peine plus de 0,2%. La raison, il y en a une, c'est l'Algérie qui refuse de délivrer ce qu'on appelle des laissez-passer consulaires, documents sans lesquels une expulsion est impossible. Et je peux vous dire que ce chiffre, 0,2% d'exécution des expulsions avec l'Algérie, a fait bondir Emmanuel Macron à plusieurs conseils de défense cet été. Après avoir tenté plusieurs approches, le dialogue, le conditionnement des aides au développement, les menaces, eh bien l'exécutif est passé aux sanctions. Ça s'est décidé il y a tout juste un mois, secrètement, à bas bruit. Emmanuel Macron a décidé de diviser par deux le nombre de visas délivrés pour l'Algérie et le Maroc, et une réduction de 30% pour la Tunisie. C'est inédit, et donc le gouvernement a pris pour année de référence l'année 2020. Alors si on prend donc les six premiers mois de l'année 2020, il y a eu près de 63 000 visas délivrés pour l'Algérie, donc pour à peu près 96 000 demandes. On est donc à un taux de délivrance des visas de 65%. Un chiffre qui s'est ensuite empiré sur les six premiers mois de l'année 2021, pendant lesquels plus de deux demandes de visa sur trois émises par l'Algérie étaient satisfaites par la France. Donc concrètement, si on regarde les chiffres de 2020, 63 000 visas délivrés en six mois, Emmanuel Macron a donc demandé au service consulaire du Quai d'Orsay de délivrer pour les six prochains mois 31 500 visas maximum, soit une division par deux. Il faut rappeler enfin un chiffre record, 275 000 visas qui ont été accordés en 2019 pour l'Algérie.
Ce durcissement dans la délivrance des visas à l'égard des pays du Maghreb, Louis, intervient à six mois de la présidentielle. Hasard ou nécessité ?
Et oui, vous avez raison Dimitri, ce n'est pas du tout anodin. L'immigration occupe le devant de la scène politique, vous l'avez remarqué, et puis Emmanuel Macron le sait, il sera attaqué sur ses résultats. Il n'a plus beaucoup temps avant la présidentielle, et il ne voulait surtout pas d'ailleurs que ces chiffres sortent, car il souhaitait obtenir des résultats avant de communiquer. Vous l'avez compris, s'il veut corriger son bilan migratoire, le chef de l'État n'a pas d'autre choix que de prendre des décisions radicales. Rappelons enfin que le chef de l'État s'était engagé en 2019 dans un entretien à Valeurs Actuelles à exécuter 100% des expulsions. Autant dire que pour le moment, et avec le Covid qui n'a rien arrangé, on est loin du compte.
Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1.
La politique toujours, les Républicains désigneront-ils leur candidat avant le 4 décembre ? C'est la date prévue pour choisir leur champion et elle fait encore débat au sein du parti.
Mais ce matin, un comité stratégique se réunit pour élaborer les règles du scrutin. Faut-il ou pas accélérer l'entrée des Républicains dans la course à la présidentielle ? Nicolas Sarkozy évoquera peut-être cette question ce soir. L'ancien président de la République est l'invité de Laurence Ferrari à 18h sur Europe 1 et CNews dans Punchline. L'occasion de parler de son dernier livre, Promenade aux éditions Herscher.
Un jour J, par ailleurs, pour les écologistes. On connaîtra en fin d'après-midi le nom du candidat des Verts pour la présidentielle.
Plus de 120 000 électeurs sont appelés à départager Yannick Jadot et Sandrine Rousseau après trois jours de vote. Et ce qui est sûr, Jacques Serret, c'est que le score va être très serré,
Difficile de prévoir qui va l'emporter ce soir. Yannick Jadot et son écologie de gouvernement ou bien Sandrine Rousseau, écoféministe radicale. À quelques heures de l'annonce du résultat, le suspense est à son comble chez les écolos. Tant le premier tour de cette primaire a brouillé les pistes la semaine dernière. Yannick Jadot, parti grand favori de ce scrutin, n'a récolté que 2700 voix de plus que Sandrine Rousseau. Et depuis, ni Delphine Bateau, arrivée troisième, ni Éric Piolle, quatrième, n'ont donné de consigne de vote à leurs électeurs. Et dans cette primaire, le corps électoral reste le même entre le premier et le deuxième tour. Impossible de prendre le train en marche pour ceux qui voudraient donner leur faveur à l'un ou à l'autre. Les inscriptions pour pouvoir voter étant clôturées depuis le 12 septembre. Au total, ils sont donc un peu plus de 122 000 militants et sympathisants à être en mesure de trancher. Le vote en ligne est ouvert depuis samedi matin. Il se clôture cet après-midi à 17h. Jadot ou Rousseau, le nom de celui ou celle qui sera candidat à la présidentielle, devrait être annoncé vers 17h30.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1.
Direction Berlin, à présent en Allemagne ou après les élections, les tractations pour former une coalition et un gouvernement commencent.
Une négociation qui pose de nombreuses questions car la victoire du SPD d'Olaf Scholz et la place des Verts et des Libéraux ont totalement rebattu les cartes. Bonjour Hélène Kohl.
Bonjour.
Correspondante d'Europe 1 à Berlin. Qu'est-ce que cette élection, ce résultat change d'ores et déjà dans la politique allemande ?
Bien écoutez, sous la surface très calme de cette Allemagne qui a voté au centre, on assiste tout de même à un mouvement très puissant de rajeunissement de la vie politique. Et ça, on le voit maintenant qu'on a les résultats très très précis. On a beaucoup parlé pendant la campagne du déséquilibre générationnel. La moitié des électeurs allemands a plus de 60 ans. Et finalement, il semble que ce soit la génération d'en dessous, celle des 30-45 ans en fait, qui a pris le pouvoir. C'est la génération des libéraux et des verts. C'est l'âge de leurs leaders, c'est l'âge de leurs électeurs. Ils sont arrivés en tête chez les moins de 30 ans, loin devant. Et on le sait, ce sont ces deux partis qui vont être faiseurs de chanceliers en portant l'idée d'une nécessaire accélération, d'un dépoussiérage de la façon dont on fait de la politique en Allemagne. Et même au sein du SPD, qui avait un candidat de 60 ans, on le voit bien, ce sont les jeunes qui raflent les mandats clés. 48 députés de moins de 30 ans arrivent au Bundestag, rien que pour le SPD. Et dans ce contexte, on comprend mieux l'échec de la CDU, qui avec 16 années de Merkel avait un peu oublié comment on fait une campagne électorale. Elle a ressorti les vieilles recettes, les « c'était mieux avant », jusqu'au slogan d'Adenauer, hein, « surtout pas d'expérience ». Elle a été sanctionnée. Les Allemands, c'est vrai, veulent de la continuité, mais ils veulent aussi du changement. Ils ont voté dans ce sens. Pas de dégagisme, mais les lignes ont bougé.
Hélène Kohl en direct de Berlin pour Europe 1. Un mot de l'actualité du coronavirus. Sanofi se retire de la course au vaccin à ARN messager contre le Covid. Annonce il y a quelques minutes du laboratoire français, mais il poursuit le développement de son autre vaccin contre le virus, actuellement en dernière phase d'essai clinique.
Voilà, celui à ARN messager n'ira donc pas en phase 3. C'est un véritable échec industriel, tout de même, il faut le dire, pour le laboratoire français. Le football et ce choc ce soir pour le compte de la deuxième journée de Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain reçoit Manchester City.
Un rendez-vous à 21h pour le coup d'envoi et dès 20h en direct sur Europe 1 avec Lionel Rousseau et tout le service des sports. Bonjour Cyril de la Morinerie.
Bonjour.
Alors journaliste sportif d'Europe 1 en direct avec nous, c'est un match de stars qui nous attend véritablement ce soir.
Oui, hein, c'est simple, ce sont les deux effectifs les plus chers du monde. Prix de l'équipe du PSG ou de Manchester City, 1 milliard d'euros. D'un côté Paris et sa fameuse M&M, Messi de retour dans le groupe après deux matchs d'absence et probablement titulaire ce soir, Neymar et Mbappé. Alors ce trio fantastique n'a que 125 minutes de vie commune, mais il fait peur à tout le monde. En face est un collectif de stars, notamment Kevin De Bruyne, il est extraordinaire ce jour. Élu à deux reprises meilleur joueur du championnat anglais, l'ailier anglais Jack Grealish ou encore le défenseur portugais Ruben Dias au service d'un entraîneur légendaire, Pep Guardiola. Son homologue parisien, Mauricio Pochettino, ne tarit pas d'éloges à son sujet.
Nous avons joué contre Manchester City, qui, selon moi, est le meilleur entraîneur du monde, Pep Guardiola, et qui a aussi le rêve de gagner la Ligue des Champions comme nous. Mais il faut être patient. Ne soyons pas hypocrites. Dans ce processus, Manchester City est plus avancé que nous, mais c'est un match de foot, tout peut arriver.
Voilà, tout peut arriver, même si après des débuts canons en Ligue 1, Paris doit s'attendre à souffrir ce soir au Parc des Princes.
Cyril de la Morinerie, du service des sports d'Europe 1.
Voilà, et puis ne manquez pas à 8h40 le Zoom Info avec une interview exclusive de Marquinhos au micro de Jean-François Pérez, le chef du service des sports d'Europe 1. Charles Villeneuve sera avec nous, il est dans les grandes voies tous les samedis, sur Europe 1 de 10h à 11h chez Pierre de Villeneuve, mais il a été aussi président du Paris Saint-Germain dans une précédente vie. On parlera des enjeux sportifs, mais aussi de ce match, dans le match, ce derby entre voisins, Qatar pour le Paris Saint-Germain, Abu Dhabi, les Émirats Arabes Unis pour Manchester City. 8h11, reste avec nous.